Oui, alors la structure, l'écriture de la Torah, elle reflète quelque chose de l'état d'âme, si on peut parler comme ça, du peuple juif. En fait. Le peuple juif étant à ce moment-là dans un état où ils sont fermés, parce que Jacob vient de disparaître. Alors la Torah, elle est aussi fermée. La Torah qui parle de ça, elle est aussi fermée. Sa structure est fermée. Vraiment le lien direct, quoi, entre la Torah, l'écriture, la forme d'écriture de la Torah et l'état du clan d'Israël. Alors, ce n'est pas toujours le cas. On a des exemples où la forme du clan d'Israël se reflète dans la forme de l'écriture de la Torah, dans la Shira, que ce soit la Shira Hayam ou la Shira de Hazinu, qui ont des formes particulières. Mais il y a des textes, par exemple, on n'a pas une forme tellement particulière pour Aseret HaDibrot. Puis imaginez, je ne sais pas, une écriture, je sais pas, en rond ou en carré, je sais pas, quelque chose de spécial pour montrer que c'est un Aseret HaDibrot. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc ça ne marche pas tout le temps et bon. En tout cas, ici c'est intéressant. Ici ça marche. Alors le grand problème, c'est que qu'est-ce qu'on nous raconte là? On nous dit ici que les Bnei Israël, ils sont fermés, mais Tsarat Hashibud, chez Itrilou le Shabdam, dit Rashi. C'est-à-dire le problème de l'esclavage, on a commencé à les réduire en esclavage. C'est un problème, l'esclavage, il n'a pas commencé à la mort de Jacob. L'esclavage, il a commencé qu'après la mort de tous les frères de Yosef. Yosef et tous ses frères. Alors de quoi on parle ici? Ce n'est pas à ce moment-là que ça devrait être fermé. Ou ce n'est pas à cause de Jacob que c'est fermé. Alors, il faut dire que ce dont on parle ici, ce n'est pas l'esclavage effectif. Mais c'est un esclavage spirituel qui commence. Pourquoi ça s'appelle esclavage spirituel? Parce que tant que Jacob était là, alors la présence de Jacob, si vous voulez, on va le dire comme ça crée une certaine ambiance dans la famille. Et à partir du moment où Jacob disparaît, alors, il n'y a pas cette ambiance spécifique. Et donc, dans quel contexte, dans quel environnement est-ce que se trouvent les Bnei Israël? Ben, ils se trouvent dans l'environnement qui s'appelle Mitzrayim. Et cet environnement qui s'appelle Mitzrayim, c'est un environnement pourri, idolâtre, etc. Et même s'ils n'ont pas commencé tout de suite à être fortement influencés, mais ils sont quand même un peu influencés. On peut appeler ça le commencement de l'esclavage spirituel des Bnei Israël. Donc l'idée étant que, d'une certaine manière, si on dit comme ça, alors nous qui sommes en galoute, nous sommes en esclavage spirituel. On sait bien que il y a une influence sur les Bnei Israël, sur les Juifs, qui vient du pays dans lequel ils se trouvent. Les Juifs américains n'ont pas la même mentalité, la même façon de vivre, y compris leur judaïsme, que les Juifs européens. Les Européens, pas le même que les Juifs turcs ou, je sais pas, ou iraniens, etc. On est influencé, même les Français n'ont pas le même que les Anglais, etc. Et ça, à partir du moment où c'est une influence extérieure, ça s'appelle esclavage spirituel. Même si les Bnei Israël, à ce moment-là, étant donné qu'ils étaient de la famille de Yosef, ou Yosef lui-même, à un moment donné, c'est sûr que ils étaient des donneurs de ton. C'était quand même, c'était la famille du quasiment du vice-roi. C'est sûr que ces gens-là, ils ont rayonné à leur manière. Mais malgré tout, ils sont plongés dans l'ambiance égyptienne. On ne peut pas échapper complètement à l'ambiance égyptienne, et ça va être quelque chose qui va impressionner, enfin, le fait que Yosef a élevé des enfants avant que Jacob ne vienne en Égypte. Il a eu et élevé des enfants avec sa femme dans un milieu complètement égyptien. Et ces enfants-là, ben ils sont bien sortis, quoi. Puisqu'ils sont tels, Yaakov va les prendre, on va en parler, et il va les mettre à la même hauteur que leurs oncles. Ça veut dire que il n'y a pas chez eux, chez Ephraim et Menaché, il n'y a pas de trace égyptienne, en fait. En tout cas, elle n'est pas tellement visible. Et l'ambiance que Yosef, qui a été coupé de sa famille, etc., réussit à mettre dans sa maison, c'est une ambiance telle que ses enfants ne dépareillent pas quand on les compare aux enfants de Jacob. C'est absolument impressionnant pour la réussite, si on veut, de Yosef dans l'éducation de ses enfants. Alors, Rashi ramène plusieurs, il ramène encore d'autres pshatim sur cette histoire de fermeture de la paracha pour fermeture des Bnei Israël. Et entre autres, il ramène, très connu, il dit que d'avoir chez Bikesh les galotes et taquets, venistam. Et Jacob a voulu dévoiler à ses enfants, au clan d'Israël, dans ce moment-là, il a voulu leur dévoiler le Ketz, c'est-à-dire le terme. Le terme, quel terme? Le terme de l'histoire. Quand est-ce que le monde sera arrivé là où Hachem veut qu'il arrive? Donc, ça veut dire que Jacob le savait et il était prêt à le transmettre. Mais il n'a plus d'inspiration, il n'a pas pu le transmettre. Est-ce qu'il ne le savait plus ou bien il n'était plus dans un état d'esprit de vouloir le transmettre? Il a compris que c'était peut-être pas adéquat de le transmettre. En tout cas, il ne l'a pas transmis. Donc on a en gros deux. Deux grandes explications. Une première explication qui est que c'est fermé parce que commence l'esclavage, commence d'abord par un esclavage spirituel, mais c'est le début de l'esclavage. Et une deuxième explication qui parle de la fin, non pas de l'esclavage égyptien, mais de la fin de tout esclavage spirituel, la fin du galout, du dernier galout. Et donc, si vous voulez, c'est intéressant de voir que les deux explications que donne Rashi, en fait, c'est d'une certaine manière, c'est à elles deux, elles font une explication complète, quoi. Du début du clan d'Israël et de la fin de l'histoire du clan d'Israël. Deux explications. Mais une, bon, effectivement, c'était l'état dans lequel ils étaient. Et puis Jacob, il voulait leur dire ce qui allait se passer. Et ça lui a pas été, ou pas été permis, ou il n'a pas senti c'était adéquat. Donc il l'a pas fait. Alors, il va néanmoins leur, on va voir dans les brachot, il va dire des choses, mais il va pas, d'abord, il va pas dater, il va pas dire ça sera telle et telle année, et il va quand même dire quelque chose, puisque dans les brachot qu'il va donner à ses enfants, il va leur donner des directives, il va leur dire comment ils doivent vivre leur vie, pas seulement en tant que ses enfants, mais en tant que tribu du clan d'Israël, quel rôle ces tribus vont avoir à jouer dans le clan d'Israël et dans l'histoire du monde. Bon, alors on nous a annoncé le programme. Voilà. Dans ce paracha, on va nous raconter que Jacob va disparaître. Et puis tout de suite, au troisième verset, on nous dit, voilà, on commence à nous raconter les 17 ans, une partie des 17 ans que Jacob a vécu en Égypte. Et on nous dit, Vaïkvou, Yemé Israël Lamout. Alors là, vous voyez qu'il y a un changement de nom. C'était Vayechi Yaakov. Vayi Yemei Yaakov. Et Vayikrevu Yemei Israël. Alors c'est clair que quand on parle de Yaakov, c'est Yaakov presque à titre personnel. Quand on parle d'Israël, c'est Yaakov en tant que le patriarche du clan d'Israël. Et donc, il parle de choses qui concernent Jacob, mais en tant que patriarche du clan d'Israël. On parle de l'histoire du clan d'Israël, en fait. Alors, Israël appelle Vaikra Livno Liosef. Le verset, il aurait très bien pu porter Vaikra Liosef. Il a appelé Yosef. C'est écrit. Il a appelé son fils. C'est comme si on répétait. Il a appelé Yosef. Il n'a pas qu'un seul fils. Mais il appelle Yosef. Bayomerlo, et il lui dit, Imna matzati chen beinecha. Simna yadcha tachat yireti. Vasita imadi chesed vemet, al na tibereni bemitzray. Na, ça veut dire s'il te plaît. Pourquoi il lui demande? Il lui demande quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, la première question qu'on pose, évidemment, c'est pourquoi est-ce qu'il a appelé Yosef? On aurait pu avoir qu'il appelle tous ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit à Yosef? Je te demande de m'enterrer en Eretz Israël. De pas m'enterrer ici, quoi. Ne m'enterre pas en Égypte. Pourquoi il demande à Yosef? Alors on pourrait penser que, bon, on a déjà vu. Yosef avait un statut particulier, Mais Rachid ne dit pas comme ça. Rachid dit, Vaikra lo livno li Yosef. Rachid cite un midrash. Le Misha yochelet biyado la'asot. Il s'est adressé à Yosef parce que Yosef avait le pouvoir de le faire. Les autres frères, ils ne pouvaient peut-être pas sortir un corps d'Égypte pour aller l'enterrer en Eretz Canaan. Mais Yosef, il avait le pouvoir. Alors, on sait bien, vous connaissez l'histoire, que qu'est-ce qu'il demande? Ici, il demande à son fils, il lui dit, voilà, je vais mourir, je veux que tu me sortes d'Égypte, que tu m'enterres, etc. Et il lui a dit, Yosef lui a dit, ok, je fais ce que tu m'as dit. En fait, Yaakov n'a pas dit directement, c'est pas la première chose qu'il a dite à Yosef. Il lui a dit, Simna yadra tachat yerushi. S'il te plaît, mets ta main sous ma hanche, en fait. Donc, c'est la même expression que celle d'Abraham parlant à Eliezer. Quand Abraham demande à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Ce qu'il lui demande de faire, c'est un geste qui va accompagner le serment, donc c'est une façon de dire jure-moi, et quand on jure, alors évidemment, jurer, c'est donner du poids à sa parole. C'est-à-dire, je convoque en quelque sorte Hachem par rapport à ma parole pour montrer que je parle devant lui, mais on peut faire plus. On peut faire ce serment, juré, en tenant un Sefer Torah, par exemple. Donc, c'est encore un degré d'engagement supérieur. Et cet engagement-là s'appelle Nekitat Hefetz. C'est-à-dire, c'est, on jure en tenant un objet. L'objet qui a de la doucha, ou un objet qui est important dans sa main. Alors, quand il lui a dit, mets ta main sous ma hanche, ça veut dire, il lui a demandé de tenir la mila, qui est c'est là l'objet. C'est la seule mitzvah qu'ils avaient à ce moment-là. Donc, il tient un objet de mitzvah dans sa main. C'est ce qu'Abraham a demandé à Eliezer, et Jacob le demande maintenant à Yosef, il va le faire jurer. Et c'est intéressant parce que dans le verset, c'est marqué. Yosef a dit, ok, je le fais. Anochi Eser Hidvarecha. Je ferai ce que tu m'as dit de faire. Il n'a pas répondu. Il n'a pas voulu jurer, visiblement. Mais Yaakov a insisté, il lui a dit, Shavali, jure-moi. Alors, à ce moment-là, il était obligé de jurer. Ben, Shavala, l'eau. Alors, on sait bien pourquoi il l'a fait jurer. Tout le monde connaît l'histoire que quand Yosef a dit à Paro qu'il voulait aller enterrer son père en Canaan, Paro a dit non, ouais, c'est pas possible. On va pas laisser partir le bonhomme qui a les clés de toute l'économie égyptienne dans sa poche. Il va partir en Eretz Canaan. Il pourrait revenir avec des Cananéens, avec nos ennemis, etc. Et on est perdu parce que c'est lui qui connaît tous les secrets. Tu peux pas partir, c'est impossible. Tu peux pas te laisser partir. Alors il a dit, mais je suis coincé, mon père m'a fait jurer. Paro a dit, moi, j'annule tes vœux, tous tes vœux. Alors, l'ISF lui a dit, OK, d'accord. Bon, alors, tu as donc annulé tous mes vœux, donc tu as annulé aussi le vœu que tu m'as obligé à faire. Parce que quand Youssef a été nommé vice-roi, il a passé un test. C'est un test qu'on demande au roi, aux pharaons et peut-être à des hauts fonctionnaires, je ne sais pas. Ils sont censés connaître toutes les langues. Grande partie des langues. Et donc on a testé Youssef. C'est marqué dans le Télim. Je ne connaissais pas les langues, mais le Midrash dit que c'est Gabriel qui lui a enseigné à la veille de l'examen. Il lui a enseigné toutes les langues qu'il devait connaître. Et donc, à un moment donné, Yosef a parlé en hébreu. Je m'en connais. Les paroles ne comprenaient pas. Donc, en fait, Paro, c'était un usurpateur. Il ne satisfaisait pas les conditions pour être Paro. Mais il a fait jurer à Yosef qu'il ne le dénoncerait pas. Yosef a juré. Alors maintenant, il lui dit, mais tu viens donc d'annuler le serment que j'ai fait. Je peux donc raconter à tout le monde que tu es un usurpateur. Il a dit, bon, tu peux y aller. Donc, la raison pour laquelle Yaakov l'a fait jurer, parce que Yaakov savait qu'il aurait beaucoup de difficultés, et d'une certaine manière, il lui a donné une clé pour sortir, quoi. Bon, donc il a juré, donc il est engagé. Le temps a passé, et puis à un moment donné, alors il y a le verset là, c'est le premier verset du nouveau chapitre 48, donc, Emchet. Vayomer le Yosef, Hine avicha cholé. Vayomer, il a dit à Yosef. On peut dire, Vayomer, c'est comme ça. Il a été dit, disons en français, à Yosef, voilà, ton père est malade. Ici, ça veut dire, il est plutôt à l'article de la mort. Alors, le problème, évidemment, Vayomer, qui est-ce qui a raconté? Qui est-ce qui l'a dit à Yosef? Alors, Rashi dit, Echad mina magidim. Une des personnes qui était censée raconter les choses, les services secrets égyptiens. Et il y a un davar acher, il y a une autre lecture. Il dit que c'est Ephraim qui l'a dit, c'est son fils qui l'a dit à Yosef. Parce que Ephraim, il étudiait chaque jour avec Yaakov. Yaakov, il habitait à Goshen. Goshen, Mitzrayim, Goshen, c'est une province qui appartient à l'Égypte, mais c'est au bout du monde, quoi. Et donc là, Ephraim, qui était auprès de son grand-père pour étudier, il est venu le dire à Yosef. Il est venu lui dire que son père était malade. Et donc Yosef a compris, donc il a pris ses deux fils avec lui. Il a pris ses deux fils et on nous dit, Et Menaché v'et Ephraim. Il a pris Menaché et Ephraim. Vous voyez, Yosef, quand il les prend dans l'ordre chronologique. Menaché qui est l'aîné, et ensuite Ephraim. Maintenant, dans l'autre sens. Vayaged le Yaakov. Et on a raconté à Yaakov maintenant. Que Yosef est en train de venir. Bilha Yosef va Elecha. Il arrive. Là, de nouveau, Rashi dit, Vayaged, Amagid le Yaakov. Velo Pirashmi. Mais la Torah ne l'a pas dit qui c'était. Le verset, il a dit, pour faire court, on n'a pas dit qui c'était. C'est-à-dire, pourquoi Rachim dit ça? J'ai bien vu qu'il le pinceau que je ne disais pas. Mais peut-être ainsi bien dire, ne te fatigue pas à chercher, ce n'est pas important. C'est un verset qui a été raccourci parce que, bon, pour faire court. C'est intéressant qu'il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit la même chose sur Yosef. D'un côté, chez Yosef, c'est marqué Va Yomer le Yosef. Ici, c'est marqué, en ce qui concerne les Yaakov, Va Yaged le Yaakov. On a dit à Yosef, on a raconté à Yaakov. Enfin, je ne sais pas en faire grand-chose, hein. Différent, mais je ne sais pas en faire grand-chose. Alors, quand Yaakov a entendu que Yosef allait venir, Vaitrazek Israël, Vayeshev à la mita. Vaitrazek Israël, dit Rashi. Vaitrazek, ça veut dire il s'est renforcé, il a fait un effort et il s'est assis sur son lit. Il était jusque-là couché dans son lit. Là, maintenant, il s'est assis sur son lit. Et Rashi dit que Yaakov s'est dit, enfin Israël s'est dit, Afalpi chez Obni, bien qu'il soit mon fils, et donc j'ai pas d'égard particulier, j'ai pas de kavod à lui témoigner, mais néanmoins, Melechu, il est roi. Azachalek lo kavod. Je vais lui donner du kavod. Et Rachid dit, Mikan, de là on apprend chez Cholkin Kavod la Malchut. V'chen Moshe, Chalak Kavod la Malchut. V'chen Eliyahu. Moshe Rabbeinu aussi, il a donné du Kavod à Paro. Au moment où il a annoncé à Paro que c'était durant l'annonce de la mort des premiers-nés, il lui a dit, vous vous souvenez, Paro, juste avant, il lui a dit, tu disparais d'ici, je veux plus te voir. Alors, Moshe avait dit, ok, je reviendrai plus. Mais après, Moshe lui a dit, mais il va y avoir un moment où tes serviteurs, Avadecha, ils vont venir me supplier, se prosterner devant moi, pour me supplier d'arrêter la maca et de partir. Et en vérité, il aurait dû lui dire, toi-même, tu vas venir te prosterner devant moi et me supplier de partir, ce qui était là, ce qui s'est vraiment fait. Mais par kavod pour paro, il lui a pas dit, toi, tu viendras. Il a dit, tes serviteurs viendront. Bien que Paro ait été crapule, mais Eliyahu HaNavi avec Ahab, lui aussi, c'est une crapule, et Eliyahu HaNavi aussi lui donne du kavod. C'est-à-dire, on donne du kavod à la royauté elle-même. Cette idée que si on considère que donner du kavod, c'est donner du poids pour permettre que la chose se fasse, pour permettre au roi de régner, il faut lui donner les moyens de régner, donc il faut lui donner du kavod. C'est ce que Yaakov a fait pour Yosef. Alors Yaakov est, maintenant le passouk nous dit, Yosef est devant Yaakov, et Yaakov commence à lui raconter l'histoire. Il dit, Kel Shaka Nira Elai, Luz, Yomer Elai, Nenima Frechavir, Betichav, Natichal Kalamim. Tu vas devenir un peuple très nombreux. Je vais te donner ce terrain, cette terre, pardon, à toi et ta descendance, comme héritage éternel. Comme ça, mine de rien, comme ça. Mais attends, et maintenant? Non. Maintenant. Maintenant, Shne banecha noladim lecha be'eretz Mitzrayim. Adboi Elecha, Mitzrayima, Lihem. Boum. Et maintenant, les enfants que tu as eus en Égypte, avant que je ne vienne, ils sont à moi. Il a fait ma base sur ses enfants. Ephraim ou Ménaché, qui Réouven et Shimon y ouli. Ephraim et Ménaché seront pour moi comme Réouven et Shimon, comme les deux premiers de mes fils. Et vous remarquez que Yaakov, déjà maintenant, il cite Ephraim avant Ménaché. Donc ce n'est pas au moment de la bracha qui va le. Ce n'est pas seulement à ce moment-là, il a déjà dit ici, Ephraim avant Ménaché. Et en plus, il lui dit, mais tes enfants, je les prends. Alors maintenant, si tu as des enfants après coup, alors ils sont à toi et ben, ils seront considérés comme des membres des tribus d'Ephraim et de Ménaché. Comme ça, en passant. Il a pris ses enfants. Et après, il continue. Et il dit, Vani, quant à moi, Bevorim et Padan, quand j'étais de retour de Padan Aram, lorsque je suis revenu de chez Laban, Metta alai Rachel. Rachel est morte pour moi, dans le pays de Canaan, Baderech, en chemin. Et je l'ai enterré là-bas. Il lui raconte, pourquoi il lui raconte ça? Je sais bien que il a enterré sa mère. Alors Rachid dit, Vorim Ipadan, etc. Il lui dit, Afalpi she'ani matriach alecha l'olicheni les Kaver bien que je te fatigue, c'est-à-dire je t'impose quelque chose d'embêtant, tu dois me transporter, tu dois aller m'enterrer en Eretz Kenaan. Velokach asiti leimcha, charemeta samuch le Et j'ai pas fait la même chose pour ta mère. Ta mère, je ne l'ai pas, je ne suis pas allé l'enterrer en Eretz Israël. On était à la frontière et pourtant, je n'ai pas passé la frontière pour l'enterrer. Je l'ai enterré de l'autre côté. Et il dit, je n'avais pas de circonstances atténuantes. Hein. Ce n'est pas parce qu'il pleuvait. Je n'ai pas pu l'enterrer, je ne suis pas allé l'enterrer à Hébron. Pas du tout. Je l'ai enterré là-bas. Velo l'artia a filou le Bethléem. Je ne l'ai même pas enterré à Bethléem lui-même. C'est juste avant d'arriver à Bethléem. L'achnissa la haaretz, j'aurais pu la faire entrer en Eretz Israël. Je ne l'ai pas fait entrer. Et il dit quelque chose que, on ne sait pas d'où il a piché ça. Il dit, Viadati, Shiesh Belipra Alai. Je sais que tu m'en veux pour ça. Je ne me souviens pas d'un endroit où on voit que Yosef ait manifesté qu'il en voulait à son père de ne pas avoir enterré sa mère à Bethléem. Peut-être qu'il veut dire, je sais, c'est pas possible autrement. Je te demandais pourquoi j'ai pas fait cet effort-là. Et maintenant, mon père, là, il a la route de me demander d'aller l'enterrer depuis l'Égypte jusqu'en Retzkenan, alors qu'il n'a pas fait un petit pas qui aurait consisté, qui était nécessaire pour pouvoir enterrer Bethléem. Alors il dit, Aval da, sache. D'Alecha, c'est Alpia Dibour, Kverti Hashem. En vérité, c'est Alpia Dibour. C'est Hashem qui a voulu que je l'enterre là. Pourquoi? Parce que, en étant là, vous connaissez, c'est le passage dans Yirmiyah, Rachel est celle qui va supplier Hashem. Et qui va obtenir Hachem répond à sa demande alors que tout le monde a essayé. Les Avot, Moshe Rabbeinu, personne n'a été entendu. Mais Rachel, elle l'a entendu. Elle a demandé, enfin, elle est placée là. Parce que quand les Bnei Israël vont partir en exil, après la destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, ils vont passer à cet endroit-là pour partir en exil à Babel. Et elle va obtenir d'Hachem qu'Hachem lui garantisse qu'ils reviendront. C'est-à-dire, il y a un problème d'exil. Quand on va en exil, a priori, c'est pas pour en revenir. Et les 9 tribus et demie là qui sont partis en exil par les Assyriens sont pas revenus. Alors je sais pas si c'est impossible, mais visiblement c'était pas prévu. Enfin, pas prévu. C'était pas quelque chose d'évident que ils vont en exil mais ils vont revenir. Puisqu'il a fallu que Rachel use de toute sa force pour persuader Hachem de s'engager à ce que les Bnei Israël reviennent. Shavu banim nigvulam, que les Bnei Israël vont revenir à l'intérieur de leurs frontières. En réfléchissant, on peut dire, la notion d'exil, elle existe dans la Torah. Elle existe à l'échelle individuelle. Quelqu'un a tué par inadvertance, il va en galoute, il va en exil. Alors là non plus, c'est pas sûr qu'il revient. Si le Kohen Gadol a la bonne idée de mourir du vivant de l'exilé, il va revenir. Mais s'il meurt pas du vivant d'exilé, il revient pas. Donc, c'est ouvert. La notion d'exil, alors, la notion d'exil, c'est une forme faible ou douce de mort, en fait. Quand quelqu'un tue, il est passible de mort. S'il tue par inadvertance, il va en galoute. Si les Bnei Israël sont envoyés en galoute, c'est qu'Hachem n'a pas jugé que les fautes qu'ils ont faites méritaient la destruction complète. Alors même ça, c'est complètement évident, parce que comme vous savez bien, les Bnei Israël auraient mérité d'être détruits. Mais Hachem a détruit, au lieu de détruire les Bnei Israël, il a détruit le Beth Amikdash. Les deux Beth Amikdash ont joué le rôle de paratonnerre. Ils ont pris la foudre de la colère divine et ils ont été détruits. Mais s'il n'y avait pas eu ces Beth Amikdash, le clan d'Israël aurait été détruit. C'est la fameuse histoire d'Aaron. Je ne vais pas entrer maintenant en détail, mais c'est ce qui s'est passé avec Aaron. Donc le galout, dans le modèle de Torah, c'est possible de revenir, mais c'est pas certain. Mais concrètement, dans les peuples, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire humaine, je crois, d'un peuple qui a été exilé pendant longtemps, en plus, et qui est revenu. Nous, on est revenu d'un petit exil, 70 ans, on est revenu. Et puis, on a une haftacha, une promesse, qu'on reviendra du grand exil dans lequel on est encore. Mais c'est une promesse. Promesse des prophètes, mais on va revenir. Et donc, c'est ce que Yaakov dit à Yosef. C'est Alpi Hachem. Alpi Adibour. Hachem qui avait décidé. Il fallait qu'elle soit là. Donc il lui, donc Yosef, Yaakov dit à Yosef, voilà, ne m'en veuille pas, j'ai pas fait ça, mais c'était à le pire dibou. Ce que je comprends pas très bien, c'est que si c'était à le pire dibou, et si Yaakov savait que Yosef lui en voulait, à cause de ça, pourquoi il lui a pas dit dès qu'il l'a rencontré? Ça fait 17 ans qu'il aurait pu lui dire ça. Et plus encore, mais disons en tout cas pendant 17 ans, il y a 17 ans, il pouvait lui raconter ça. Pourquoi laisser Yosef lui en vouloir pendant 17 ans alors que il n'avait qu'un mot à dire, il n'avait qu'à lui dire la chose. Ce qu'il lui dit là maintenant, il aurait pu le dire alors. Je ne sais pas. Vayar Israël et Bnei Yosef. On a dit que Yosef, il était venu avec ses fils, voir son père. Donc, Israël, le Passouk dit, Israël voit les Bnei Yosef, les enfants de Yosef. Et il demande, mi elle est. Qui sont-ils? Ça fait 17 ans que Ephraim étudie tous les jours avec son grand-père. Il demande qui ils sont. Alors évidemment, la question n'est pas qui ils sont, je ne les reconnais pas. Jacques Rachid est obligé de commenter sur Vayar Israël et Bnei Yosef. Il les a vus, mais quand il les a vus? Qu'est-ce qu'il a vu? C'est Bikesh le Varcham. Il a voulu les bénir. Venistalka Shrina Mimenu. Et la préhension divine l'a abandonné. Donc il n'a plus d'inspiration pour les bénir. Donc il demande, mais qu'est-ce qu'ils ont ces enfants pour que quand je veux les bénir, ça ne marche pas? Alors Rachid dit, pourquoi la Shrina s'en est allée? Le fils est Atid Yerovam Verchav, Latzet me Ephraim, Veyehu Uvanav, Imenaché. Incroyable. Des centaines d'années plus tard, il va y avoir des descendants d'Éphraïm et de Menaché qui seront des idolâtres. Ça fait que je ne peux pas les bénir. La caractéristique de Yaakov par rapport à Abraham et Yitzhak, c'est qu'Abraham et Yitzhak, ils ont tous les deux un fils qui a mal tourné. Et la caractéristique de Yaakov, c'est que les 12 enfants ont bien tourné. Ça s'appelle Mitato Shlema. Littéralement, ça couche pendant que sa descendance est parfaite. Donc, parce que lui, c'est sa caractéristique, alors quelque part, il supporte pas donner de bracha à des gens dont la mitatam lo shlema. Leur descendance n'est pas parfaite, même à des centaines d'années de distance. OK, alors ça, c'est déjà difficile à comprendre, mais le problème, c'est la suite. Qu'est-ce que fait, donc, il a demandé mi élé, réponse de Yosef, Banaïhem, ce sont mes fils. Asher Nathan li Elohim bazeh. Zeh, c'est toujours quelque chose qu'on montre du doigt. Alors Rashi dit, ça veut dire donc, mi elé, qui sont-ils, ces enfants qui ne méritent pas la bracha? Il est dit bazeh. Eralo, shtar erusin, shtar nisuin, ktuba. Ubikesh Yosef Rachamim ala davar. Venacha alav ruach hakodesh. Dans la Torah, c'est marqué, Yosef a répondu, ce sont mes fils qui Elohim m'a donné avec ça, donc grâce à ça, dans ce cadre-là. C'est-à-dire, ces enfants, je les ai eus dans le cadre d'un mariage. Voilà. Donner des roussines et des kiddushines. Des kiddushines, pardon, et des nisouines à ma femme. Il n'y a pas de risque de mamzerout, etc. Mais en quoi c'est une réponse à la question? Il a demandé, mi elle. Il répond, c'est mes enfants, ils sont cachés. Justement, il y a un problème. Le Rashi a ajouté que Yosef a prié sur cette question-là. Ubikesh rachamim ala davar. Et quel rachamim? Qu'est-ce qu'il a demandé? Alors vous vous souvenez que dans l'histoire de Korach, quand on donne l'ascendance de Korach, on s'est arrêté avant Yaakov. Le Chazal explique que Yaakov a demandé qu'on ne mentionne pas son nom avec Korach. Mais qu'est-ce que ça change? C'est quand même son descendant. Donc il y a un inyan de déconnecter, en fait. Oui, il est biologiquement, mais quelque part, je suis déconnecté de cet enfant. Et donc, je pense que de la même manière ici, Joseph a dû prier pour déconnecter ces rois idolâtres, ces idolâtres, de leur ascendant. Et du coup, il a nettoyé en quelque sorte. Alors, ça peut se faire par la prière, visiblement. Ou ça se fait déjà par le seul fait que la Torah ne le mentionne pas. Oui, Yaakov. Le Korach. Et ici, il a prié. Alors, c'est intéressant, c'est Yosef qui prie. La vérité, c'est que si ces idolâtres-là sont les descendants de Ephraïm et Manassé, ils sont ses descendants à lui. Ils sont aussi les descendants de Jacob, en vérité. Ça finit pas, quoi. Ça remonte jusqu'à Jacob aussi. Lui aussi, mais ça remonte à Jacob et à Yosef. Donc Yosef, lui, il a prié pour ça. Et il a obtenu visiblement gain de cause, puisque le roi HaKodesh est revenu chez Jacob. C'est Yosef qui prie et le roi HaKodesh qui revient chez Jacob. Bon, alors on nous raconte maintenant comment se passent les brachot. Bien que, de même que le problème des brachot entre Yaakov et Esav s'est fait alors que leur père, il n'y voyait plus très bien. Ici aussi, Veine Israël, Kavdou Mezoken. Lo Yochal Lirot, il voyait pas. Intéressant de voir que les deux patriarches, quand ils bénissent, pas l'aveuglette au sens où, oui, c'est n'importe quoi, mais eux ne voient pas. Comme si c'était important de ne pas voir. Pas être dérangé, peut-être, par ce qu'on voit. Donc, il les a rapprochés, il les a embrassés, etc. Et alors, Israël dit à Yosef, Raouf anecha lo filalti. Vine era oti Elokim, gamet zarecha, pardon. C'est-à-dire, je n'espérais pas te revoir vivant. Te revoir. Et voilà que Elokim me met en présence de ta descendance. Donc c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, écoute, c'est extraordinaire parce que quand Yaakov a appris l'histoire qui était arrivée à Yosef, en tout cas ce qu'il a cru qui était arrivé à Yosef, d'une certaine manière, il a pensé qu'il avait raté l'affaire. Il était censé fabriquer un peuple avec 12 tribus. Si Yosef n'est plus là, il n'y a plus 12 tribus. Donc c'est raté. Quelle que soit la raison pour laquelle il faut 12 tribus, ben c'est quand même prévu avec 12 tribus. Toujours. Il n'y a plus 12 tribus. Et voilà que quand il revoit Yosef, ce n'est pas simplement Yosef qu'il revoit. Mais tout redevient possible. Alors, il a déjà dit que Ephraim et Menaché sont comme Rouven et Shimon. Alors, Yosef les place normalement devant son père, pardon. Donc il s'est débrouillé pour que Ephraim, qui était l'aîné, soit sous la main droite de Yaakov, pardon, c'est que Ephraim soit sous la main droite de Yaakov et Ephraim sous la main gauche, normalement. Qu'est-ce que fait son père? Son père, il croise les bras. Il met la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Menaché. On nous dit qu'il a posé les mains, donc on s'attend à ce que vienne la bracha sur Ephraim et Menaché. Non, maintenant, après s'être mis en position de bénir ses petits-enfants, il commence par bénir Yosef. Elokim, Asherit Avotai, Asherit le Panav, Amalach HaGoeloti, etc. D'accord, donc il bénit Yosef. Et après, la Torah nous dit, alors maintenant Yosef, il voit ce que son père a fait. Alors il lui dit, mais non. L'Ochen avis. Pas comme ça. Zéapro, Simiatra al Rochon. C'est une drôle de situation. C'est pas naturel de croiser les bras pour bénir. Donc Yosef, il voit que son père, il croise les bras. Il le fait comme si c'était trompe, comme si Yaakov se trompait. Il a pensé, qu'est-ce qu'il a pu penser? Est-ce que Yosef, il s'est dit, mon père, il n'a pas su que moi, j'ai calculé qu'il fallait mettre l'aîné sous sa main droite, donc à la gauche, quand je les ai amenés. Donc peut-être mon père, il a pensé que je suis venu avec à main droite l'aîné, donc l'aîné va aller se trouver sous la main gauche, et c'est pour ça qu'il a croisé les bras. On lui dit, non, non, pas du tout. L'aîné, c'est lui. Alors Yaakov, lui, alors c'est intéressant de voir que Yaakov, qui n'y voit pas goutte, en fait, lui, il sait quand même où il meurt. Il sait qu'il a mis les mains sur Ephraim. Et c'est volontaire. Alors, est-ce que il les reconnaît à la voix? Ou il sait que c'est Ephraim, à gauche ou à sa... Peut-être à la voix, parce qu'il a l'habitude de l'emmener avec Ephraim, peut-être qu'il connaît la voix d'Ephraim. Donc il a fait exprès. Alors il dit, mais je sais très bien, je sais qui est l'aîné, je sais. Mais donc, mais moi je sais autre chose. Je sais quelque chose qui ne respecte pas l'ordre de naissance. La Torah, elle n'arrête pas de nous parler de l'importance du Bechor, etc. Mais c'est jamais un Bechor qui... Il n'y a pas d'exemple d'un Bechor qui joue un rôle fondamental. Moi, je n'ai pas le Bechor non plus, je veux dire. Yaakov n'est pas Bechor par rapport à Esav. Yitzhak n'est pas Bechor par rapport à Ishmaël. Et là non plus, c'est Ephraim qui n'est pas le Bechor. Le Bechor, c'est Menaché. Mais Yaakov dit qu'Ephraim, il va jouer un rôle plus important. Et donc, je lui donne une bracha plus importante. Et Yaakov dit, il les bénit, et il dit, c'est comme ça qu'on bénira dans le clan d'Israël. On dira, Yesimcha Elohim ki Ephraim bechi Menaché, et on dira, Ephraim avant Menaché. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on bénit avec Ephraim et Menaché? Pourquoi on bénit pas avec, je sais pas moi, Issachar et Yehuda, ou je sais pas, il y a plein de fils de Jacob. Pourquoi on prend justement les fils de Jacob? Parce que ce que je vous ai dit un peu avant, la spécificité d'Ephraïm et Menaché, c'est la chose suivante, c'est que normalement, nous, on pense que il y a ce qu'on appelle Yiridat HaDorot. Les générations, le niveau de génération baisse. Donc, les enfants sont inférieurs en spiritualité, inférieurs à leurs parents. Ce que dit Yaakov, il dit qu'Ephraim et Menaché, ils ne sont pas inférieurs. La preuve, c'est qu'ils les remontent au même niveau que leurs oncles et que leurs pères, donc. Et donc, la bracha qu'on donne à nos enfants, quand on donne cette bracha d'Ephraïm et Menaché, ça veut dire te bénis pour que tu ne dégringoles pas. Que tu restes au moins au même niveau, si ce n'est pas plus élevé que moi. C'est ça, et ça n'existe que chez Menaché et Ephraïm. Alors Yaakov reprend la bracha avec, il reparle avec Yosef. Il dit, voilà, moi je vais mourir. Elohim sera avec vous. Il vous ramènera vers le pays de vos ancêtres. Vani, quant à moi, natatilcha, t'ai donné un an plus par rapport à tes frères. Et il lui dit, cet an plus que je t'ai donné, où est-ce que je l'ai pris? Alors il dit, je l'ai pris, Asher lakarti, miyada emori. Je l'ai pris chez les Moréens. C'est-à-dire, je l'ai pris à Essav. Becharbi ou bekashti, littéralement avec mon épée, avec mon arc. Rashi traduit, I chokhmato ou tfilato. C'est sa sagesse, sa prière. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faut lire? Il a pris à Essav sa sagesse, sa prière. Ou est-ce que je l'ai pris par sagesse et par prière, j'ai réussi à prendre quelque chose qui était chez Essav? C'est comme si Yaakov disait, on est des jumeaux, donc en fait il a pris une part de cet héritage qui vient de nos parents. Mais en fait j'ai tout récupéré. J'ai récupéré sa part aussi. Et c'est de ce que je t'ai donné l'en plus, il vient des sables. J'ai pas enlevé aux autres en fait. Je t'ai donné un an plus, mais un an plus qui vient des sables. Alors pourquoi Chochma? Alors on voit bien, la Chochma et la Tfila. La Chochma, c'est l'épée, c'est la Chochma, et la Tfila, c'est l'arc. Bon, on comprend. Mais comme c'est marqué Chochmato ou Tfilato, je pensais que peut-être ce qu'il est en train de dire ici, c'est que, comme vous savez, Ésaü et Ishmaël, ils vont ensemble. Et peut-être que Chochmato, c'est Ésaü, et Tfilato, c'est Ishmaël. La sagesse, l'intelligence, et l'Occident, quoi, c'est Ésaü. Et la prière, c'est Ishmaël, puis 5 fois par jour. C'est-à-dire que j'ai enlevé l'énergie des Umot HaOlam. Qu'Ésav et Ishmaël, c'est les Umot HaOlam. J'ai pris sur les Umot HaOlam, j'ai pris ce qu'il y avait de meilleur, en quelque sorte, et je te l'ai donné à toi. En particulier, Yosef est celui qui peut, enfin, dont Jacob a pensé que Yosef, lui, il peut gagner la guerre contre Esaü. Que quand Jacob est parti de chez Laban, il est parti après la naissance de Yosef en disant, maintenant je peux partir, j'ai de quoi affronter Esaü, puisque Yosef est né. Et du coup, ça ne parle que des sables. Mais la vérité, c'est que, comme on l'a vu dans d'autres shiurim, c'est possible que Ishmaël ne soit que une autre partie des sables, en fait. C'est-à-dire que Esav, en épousant la fille d'Ishmaël, une fille d'Ishmaël, il a récupéré ce qu'il avait à récupérer d'Ishmaël. Possible. Bon, alors après avoir béni Yosef et béni ses fils, alors il s'est attaqué à la bénédiction enfin, s'est embarqué dans la bénédiction de tous les autres fils. Alors, dans la Torah, il y a deux systèmes de bénédiction. Il y a l'ensemble des bénédictions de Yaakov à ses fils et l'ensemble des bénédictions de Moshe Rabbeinu aux tribus, qui sont les tribus issues des fils de Yaakov. Alors un jour, peut-être, Mirza Hashem, Bineder, une comparaison des deux brachot, quoi. Pour voir, mais je ne l'ai pas fait. Possible que bon, ça a sûrement déjà été fait, mais je le connais pas. C'est sûrement très intéressant de savoir comment ça s'arrange. Donc, on sait qu'il y a un problème spécial avec Simone, mais autrement, pour les autres. Alors, je sais pas, on va en rester là. J'ai pas travaillé le reste.